Donc on appuie sur là.
Non, on s'enregistre encore. On peut appuyer là.
Je vais vous demander si vous étiez féministe.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour mon cher Alexandre.
Bonjour mon cher Benoît.
Bienvenue sur Jet FM où aujourd'hui nous parlons football et féminisme.
Tout à fait Benoît, c'est dans le cadre d'un atelier thérapeutique et pédagogique que les enfants du CHIP de l'hôpital de Domaison se sont penchés sur la question du féminisme dans le sport.
Mais rappelez-moi ce qu'est le CHIP exactement.
Alors le CHIP, c'est le service hospitalier intersectoriel de pédopsychiatrie qui se situe à Bouguenay.
Une bien belle équipe à ma foi. Et donc ils ont pu interviewer l'actuelle gardienne du FC Nantes, Daruelo Malbo.
Tout à fait mon cher Benoît, et par hasard ils ont également rencontré le responsable du futur musée du FC Nantes avec qui ils ont discuté de l'histoire du club de Nantes.
Alors à vous les enfants et allez Nantes!
Bonjour, moi c'est Daruelo Malbo, j'ai 22 ans. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé ma première année au Choc, c'est à Saint-Herblain. Ma première année débutant, ensuite j'ai voulu jouer avec mes copains. Des copains parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient de... Il n'y avait aucune fille même de mon école qui faisait du foot avec moi. Donc je suis allée dans mon club de la ville où j'habitais, c'était à Sautron. Et après, je suis retournée au Choc, là où il y avait mes deux frères qui faisaient déjà du foot, pour rentrer en Benjamin. Et à partir de là, j'ai continué avec les garçons jusqu'à 15 ans. Et il y a eu une scission, en fait, c'est-à-dire une séparation entre les garçons et les filles. Et du coup, le club est devenu entièrement féminin jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Le club a en fait coulé et on a été absorbé par le club d'Orvo Sport. Donc en fait, j'ai changé de nom de club, mais en fait, je suis restée dans le même club jusqu'en 2015-2016, où je suis allée au FC Nantes. Et donc du coup, là, c'est ma quatrième année au FC Nantes. La première fois que j'ai joué en national, j'avais 16 ans.
Est-ce que vous faites un autre métier que le football ?
Je suis étudiante. J'ai validé ma licence 3 l'année dernière en études de sport. Et du coup, cette année, bah, je fais de la garde d'enfants pour... En plus du foot, voilà. Mais sinon, non.
Est-ce que vous avez des gardes du corps ?
Non, j'ai pas de garde du corps. Ça pourrait être bien. J'aimerais bien, mais non.
Votre entourage n'a pas eu peur quand vous leur avez dit que vous voulez faire une carrière de footballeuse ?
Non, au contraire, mon papa était très content. En fait, j'ai trois frères et sœurs, donc deux grands frères. Qui étaient tous les deux dans le football. Un qui était déjà bon, qui était en national aussi. Et un qui n'était pas très bon, donc il a fini arbitre. Ma sœur ne voulait pas du tout faire de football et mon père voulait absolument qu'il y ait une fille qui fasse du football. Et du coup, il m'a plutôt encouragée, au contraire, il est très content. Et c'est mon premier supporter, je pense. Et voilà. Ma mère était un peu plus... c'est plutôt parce qu'elle en avait marre du foot qu'elle ne voulait pas qu'il fasse trop de foot, mais au final, elle était très contente quand même.
Quelles sont les contraintes de votre métier ?
Alors, les contraintes, je vais parler surtout pour le football féminin, parce que, voilà. Les contraintes, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment professionnel. Donc, on nous demande beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement pour, au final, je m'entraîne, par exemple, tous les jours. Donc, ça demande du temps. Du coup, on peut laisser un peu les études de côté ou on ne peut pas s'engager vraiment dans les études alors qu'au final on n'a pas cette certitude de vraiment y arriver et de c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment faire toute notre vie. Être footballeur et footballeuse, c'est du sport, donc au bout d'un moment notre corps il va nous dire stop et par conséquent c'est un engagement, mais en même temps c'est entre guillemets un sacrifice pour les autres années à venir, sauf si on arrive bien sûr à mêler avec des bonnes études qui peuvent nous permettre plus tard de faire avoir un beau travail, pardon, et voilà.
Combien d'heures de sport faites-vous par jour ?
Par jour, on est à deux, donc ça dépend, sauf quand on a deux entraînements dans la journée, des fois ça arrive. On peut être à 1h le matin, plus 1h30 à 2h de séance le soir. Donc on est entre 3h à peu près.
Est-ce que ce métier empêche d'avoir une vie de famille ?
Non, non, ça n'empêche pas parce que on a juste un entraînement ou deux dans la journée et le reste du temps, au contraire, on peut être avec nos proches. Il y a juste les déplacements le week-end qui peuvent être un peu... quand c'est là où souvent nos proches sont libres parce que c'est là où on ne travaille pas dans les métiers communs, on va dire. Mais non, ça n'empêche pas.
Avez-vous plus ou moins de public que les joueurs masculins ?
On a beaucoup moins de public que les joueurs masculins dans mon club. Après, les féminines, comme l'Olympique Lyonnais, elles ont beaucoup de public. Ça remplit des stades.
Vous sentez-vous respectée dans le milieu du foot ?
Oui, je me sens respectée dans le milieu de foot. On arrive à... Maintenant, les féminines sont acceptées. Elles ont, avec la Coupe du Monde 2019, on a montré que les filles peuvent faire du foot. Certes, on a moins de vitesse, moins de puissance. C'est physiologique. C'est la nature qui veut ça. Mais on reste très technique. Et puis, on a l'intelligence de jeu, la vision de jeu.
Avez-vous observé des comportements sexistes dans le milieu du foot, encore une fois ?
Ça fait longtemps que j'en ai pas observé pour ma part. Après, oui, c'est quand j'étais jeune et que j'arrivais toute seule dans mon équipe de foot, avec mon équipe dans un club pour jouer contre des garçons, ils étaient « Oh, c'est une fille dans les buts », parce que je suis gagne de buts. « Oh, c'est une fille dans les buts, ça va être facile, on va pouvoir marquer plein de buts. » Et au final, bah non, parce que je me laissais pas faire, et voilà.
Aimeriez-vous avoir des groupes mixtes en entraînement et en match ?
J'ai, pour ma part, adoré jouer avec les garçons jusqu'à 15 ans. C'est très enrichissant. On est directement dans le dur parce que les garçons, il y a plus de puissance, comme je le disais. Et à 15 ans, ils sont déjà grands et puissants. Donc, il y a déjà une différence. Mais m'entraîner, j'aime bien jouer de temps en temps, mais m'entraîner avec des copains, oui, pourquoi pas. Après, à long terme, ça serait quand même difficile pour nous, les féminines, de rivaliser avec eux, comme je disais tout à l'heure, notamment en termes de vitesse et de puissance.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées.
Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
Debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers.
Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
Debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous.
Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves.
Debout.
Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave.
Debout.
Bonjour Philippe, merci de nous accueillir. Vous êtes le responsable du projet musée FC Nantes. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du club ?
Bonjour à tout le monde, parce qu'il y a du monde dans la salle. Alors l'histoire du club, je vais être assez succinct. Le FC Nantes est né en 1943. Donc ça fait déjà un bail. Si tu comptes bien, ça fait combien ? On a fêté les 75 ans il y a 2 ans, donc cette année ça fait 77 ans, au mois d'avril. En fait, le club a démarré à Nantes parce qu'en 1943, à cette époque-là, il n'y avait pas de club de football de haut niveau. Donc il y a des dirigeants de différents clubs dans Nantes, des clubs amateurs, qui se sont réunis, alors que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils se sont dit « on va créer un club de football professionnel de haut niveau ». Ils ont réussi à s'entendre, à créer ce club, qui, 2 ans après, en 1945, est devenu un club professionnel, avec des joueurs qu'on payait déjà. Et puis, petit à petit, il a fallu attendre 20 ans, donc en 1963, le club est monté au plus haut niveau, ce qu'on appelle aujourd'hui la Ligue 1. À l'époque, on appelait ça la Division 1, la D1. Donc en 1963, le club monte en D1. Les joueurs de l'époque ont attendu 1 an, et l'année d'après, la saison d'après, ils sont devenus champions de France. Et en fait, depuis 1963, on a 8 titres de champion de France, on a 3 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, mais ancienne version, puisque la nouvelle version, on l'a perdue en finale. Et puis on a, ce que les jeunes ne savent pas, parce qu'on parle beaucoup de Ligue des Champions, hein, Champions League en ce moment, le PSG, Lyon, etc. On a fait 2 demi-finales, on a fait une demi-finale en Coupe d'Europe, qu'on appelait autrefois la Coupe des Coupes, et on a fait une demi-finale en Ligue des Champions, contre la Juventus de Turin, en 1996. En clair, le dernier titre qu'on a vécu, en 2001, donc ça va faire 20 ans l'année prochaine, le temps passe vite, c'est le dernier titre de champion de France qu'on a eu en 2001.
Vous êtes chargé du projet musée, qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Alors ce projet musée, qui est effectivement pour l'instant qu'un projet, s'est déclenché il y a 5 ans, quand notre président, Waldemar Kita, s'est aperçu qu'en France, il y avait un club qui avait créé un musée, c'est Saint-Étienne, qui a une belle histoire. Mais nous, on a une très belle histoire à raconter, mais on n'avait pas de musée. Nous, le musée, il est, comment dirais-je, dans les starting blocks, comme on dit, c'est-à-dire que tout est prêt. L'histoire, on la connaît. L'histoire, on l'a reconstituée. Il nous manque une seule chose, c'est un endroit. C'est un lieu. Parce que pour faire un musée, il faut bien qu'il soit un endroit. Et l'endroit idéal pour les clubs de football, c'est que le musée se trouve là où s'écrit l'histoire des clubs, c'est-à-dire dans leur stade, là où ils jouent les matchs. C'est là qu'on écrit l'histoire. Sauf que le stade de la Beaujoire actuel ne nous appartient pas, même s'il y avait possibilité d'y faire un projet. Qu'entre-temps, il y a eu un projet qu'on a appelé Yellow Park, qui était un projet stade et plus, qui s'est arrêté l'année dernière. Et nous, on était intégrés. Quand je dis nous, c'est le service musée, évidemment. On était intégrés dans ce projet de nouveau stade. Le nouveau stade, le projet étant arrêté, le musée est de nouveau en stand-by. Mais ce n'est pas trop grave, finalement. Parce que ça nous permet de créer des expositions. Là, actuellement, alors, il y a une circonstance atténuante en ce moment, mais on est en train de travailler sur une exposition qu'on appelle provisoire. C'est-à-dire que l'exposition, on va raconter l'histoire du FC Nantes par petites bribes, mais qu'on va montrer à l'extérieur. Là, on va aller dans une société qui s'appelle Crédit Mutuel, qui a un siège au centre de Nantes, pas loin de Marcel Saupin, qui est notre ancien stade historique. Ça tombe très bien. Ils ont une galerie et ils nous mettent la galerie à disposition. Et on est en train de travailler sur une exposition où on a interrogé plusieurs personnes en se disant, ils sont tous supporters du FC Nantes. Racontez-nous vos meilleurs souvenirs. Et en racontant leurs meilleurs souvenirs, on va mettre à côté de leurs souvenirs un objet correspondant à ce souvenir, qui fait partie de nos collections. Parce qu'on est en train d'étoffer nos collections. On récupère des objets. Et ça, on va le montrer. On va le mettre en scène. Donc on est en train de le faire. Normalement, on devait faire un démarrage de l'exposition et un vernissage le 20 avril, avec ce qui se passe actuellement et la pandémie, tout est mis dans le tiroir pour l'instant, mais on continue à travailler dessus. Donc, en tant que tel, pour dire quoi, simplement ? Le musée, c'est bien, parce que c'est un endroit où vous, les jeunes, vous allez découvrir l'histoire du club, où les moins jeunes vont se remémorer l'histoire du club. Mais comme on ne peut pas le faire, on va le faire au travers d'événements comme ça, en transmettant cette histoire-là du club à travers des expositions temporaires. C'est ça l'important, en fait. Aujourd'hui, on n'est pas sur un projet musée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du club et la transmission de patrimoine. C'est-à-dire comment on fait pour transmettre aux plus jeunes et rappeler aux plus anciens ce qu'a été l'histoire du FC Nantes et de 1943 à maintenant, quoi.
C'est la fin de l'émission. Il est temps de nous quitter. On ne remercie pas, bien sûr, le Covid-19 d'avoir écourté notre projet. Par contre, un grand merci à Darwella Malbo, à Philippe, au FC Nantes. On remercie aussi toutes les personnes du CHIP qui ont participé de près ou de loin à l'émission. On remercie le dispositif Grandir avec la culture du Conseil Général qui nous a permis de réaliser ce projet. On remercie aussi Laure et toute l'équipe de JetFM. Et bien sûr, un grand merci aussi aux enfants pour leur engagement et leur participation. Merci donc à Isée, Lucas, Victoria et Mathilde. Et on veut remercier vous, les auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.